Donc, bonjour à tous, mon nom est Alice Bruno et je suis avec Leila Ingsetter. Bonjour à vous.
Bonjour.
Donc, c'est une professeure à l'UQAM qui a comme domaine d'expertise, entre autres, les Autochtones, l'histoire des Autochtones, les institutions et Autochtones, les peuples algonquins, la rencontre coloniale et étatique, les traditions juridiques autochtones. En fond, tous ces domaines d'expertise sont directement liées aux Autochtones, ce qui la rend donc compétente à répondre aux questions, parce que, en effet, le sujet abordé dans l'entrevue sont les Autochtones au Canada, soit les premiers peuples d'Amérique du Nord et leurs descendants. Il y a les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, on va commencer avec l'entrevue. Donc, premièrement, plus au niveau personnel, pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans ce domaine d'études?
En fait, moi, j'ai fait un passage par l'archéologie. Donc, c'est comment reconstituer quelque chose, le passé des gens pour lesquels il reste très peu d'indices. Et par la suite, j'ai bifurqué vers l'histoire des Autochtones. Donc, dans les deux cas, c'était trouver des réponses à partir des indices très, très, très minces. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser au passé des Autochtones, soit via l'archéologie, soit via les indices documentaires.
Puis comment décrivez-vous l'évolution des études autochtones à travers le temps?
Dans le temps long, ça, c'était toujours un intérêt de spécialistes, donc un peu de marginaux, si je peux dire, des gens qui s'intéressaient à ça. Et évidemment, chez les Autochtones aussi, il y avait des gens qui s'intéressaient à leur propre culture ou tradition, etc. Le domaine a connu une explosion d'intérêt après 2015, le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a fait connaître peut-être au grand public l'intérêt pour ce groupe de personnes et les études sur ce groupe de personnes-là. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2015, il y a vraiment une explosion d'embauches dans les universités de cours qui se sont enseignées sur ces sujets-là.
Ensuite, au niveau de leur histoire, quelles conséquences de la colonisation peuvent être ressenties de nos jours dans les communautés autochtones?
Ben, les conséquences, il y en a une multitude, donc ce serait difficile d'y répondre, mais c'est sûr que dès qu'il y a eu un contact culturel, il y a des changements qui s'opèrent dans tous les sens, en fait. Donc c'est comme un peu, on met en place une sorte d'effet domino, qu'il y a des changements culturels, donc il y a des traits culturels qui sont empruntés de part et d'autre, donc par les Européens qui ont emprunté des traits culturels aux Autochtones, et dans l'autre sens aussi, des Autochtones qui ont emprunté des traits culturels aux Français. Souvent, ces conséquences-là, on ne peut pas les qualifier de positives ou négatives, en fait, ce sont juste des emprunts. Ça, il y en a beaucoup depuis les tout débuts. Quand on parle de conséquences, souvent on pense à des conséquences plus négatives, peut-être. Là, elles se sont fait sentir à des endroits où il y a eu des enjeux territoriaux, donc des nouveaux venus qui prenaient ou voulaient les territoires occupés par d'autres personnes. Et à partir du 19e siècle aussi, il y a eu vraiment une volonté étatique de façonner les Autochtones dans le moule de la majorité, donc de les transformer volontairement. Et ça, c'est vraiment le projet s'est mis en place au 19e siècle avec force, mettons, à partir des années 1880, et une deuxième fois avec force dans les années 1950. Et donc, dans ces effets-là, on a voulu transformer les Autochtones avec des conséquences négatives très fortes.
Qu'est-ce que la réconciliation signifie réellement pour le peuple autochtone? Puis est-ce que c'est un objectif qui est réaliste?
En fait, la réconciliation, ce n'est pas un projet qui provient des Autochtones, c'est un projet qui provient du gouvernement du Canada dans la foulée de la remise du rapport de la vérité, du rapport de vérité et réconciliation. Et donc là, la question est ouverte, en fait, sur qu'est-ce que ça veut dire réellement. Je pense que ce que tout le monde espère, c'est une sorte de rééquilibre des forces et que dans le système de la distribution des pouvoirs et des compétences dans la Confédération canadienne, qu'il y ait une sorte de nouvel aménagement qui soit fait pour amener une forme d'autodétermination de la part des Autochtones. Mais ça, c'est un projet pour l'avenir. En fait, on dessine l'avenir sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, c'est souvent interprété dans ce sens-là.
Est-ce que vous pensez que c'est réaliste?
Je pense qu'il y a un réaménagement de l'équilibre des forces qui se fait actuellement. Donc oui, je pense que oui. Évidemment, dépendamment de où on se situe sur la table de négociation, un va vouloir plus ceci et l'autre va vouloir plus cela. Mais je pense qu'actuellement, les choses bougent et je crois qu'on va assister à une sorte de décentralisation des pouvoirs gouvernementaux plus grande à l'avenir.
Comment les Autochtones ont-ils résisté à l'assimilation à travers le temps?
En fait, depuis les tout débuts, même malgré des contacts soutenus, les Autochtones ont maintenu une identité distincte et les Européens ou les Eurodescendants ont maintenu une identité distincte. Donc, en se côtoyant, chacun a maintenu son identité propre. Les volontés d'assimilation sont vraiment un produit, comme je disais tantôt, du 19e siècle et surtout, en fait, et même des années à 1950. Mais même dans ce projet-là, en maintenant les Autochtones séparés puis en ayant des directives vraiment spécifiques à leur égard, bien, on a continué de maintenir un traitement séparé. Donc, en quelque sorte, même si on visait l'assimilation, on a maintenu un écart. Et donc, dans ce sens-là, l'assimilation ne s'est jamais produite.
Parfait. Donc, niveau plus géographie, comment les changements climatiques ont affecté les Autochtones qui vivent surtout de ressources naturelles?
Bien, les Autochtones, en fait, ils vivent de toutes sortes de choses aujourd'hui. Donc, les Autochtones sont touchés comme l'ensemble de la société. Mais peut-être que ceux qui vivent où la chasse et la pêche constituent un pourcentage significatif de la diète, par exemple, les changements climatiques jouent... C'est préoccupant, notamment dans l'Arctique en fait, canadien, où le changement climatique se fait sentir avec force, et là, la banquise ne se forme plus, etc. Donc, il faut revoir les façons de fonctionner, mais même à d'autres niveaux, par exemple au Canada, dans certaines communautés nordiques, n'ont pas de route pour y accéder, mais en hiver, on faisait des routes de glace, par exemple, où les camions pouvaient se rendre. Mais là, ces routes-là deviennent impraticables parce que la glace n'est pas prise de façon assez permanente. Donc, il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement, par exemple. Des choses comme ça qui sont des enjeux, pas nécessairement au niveau de l'acquisition des ressources pour la chasse et la pêche, mais pour l'infrastructure en tant que telle. Le pergélisol qui fond, mais ça aussi, c'est un enjeu au niveau de toutes les infrastructures dans le Nord. Les maisons sont construites sur pilotis, les aéroports sont construits sur un substrat qui normalement est gelé, mais là, s'il dégèle, tout ça menace de s'écrouler. Donc ça, c'est vraiment des gros enjeux.
Et comment la perte des terres a-t-il transformé la répartition géographique des communautés autochtones?
Ça, c'est vraiment variable dans le temps, donc ça dépend où on parle. Okay. Mais il y avait des Autochtones à peu près partout au moment de l'arrivée des Français, même si dans la vallée de Saint-Laurent, il y a eu un certain vide qui s'est créé à la fin du 16e siècle, mais qui s'est rempli par la suite. Alors, c'est sûr que lorsque les Français se sont installés nombreux pour cultiver la terre, c'est surtout là qu'il y a un enjeu de cohabitation. C'est vrai dans la vallée du Saint-Laurent, donc les Autochtones qui vivaient là ou qui se fréquentaient beaucoup se sont mis à aller un petit peu plus loin à l'intérieur des terres. Mais au 19e siècle, il y a eu un mouvement de colonisation vers le nord, donc dans l'amont des rivières qui se déversent vers le Saint-Laurent, en Outaouais, au Saguenay, etc. Et là aussi, lorsqu'il y a une colonisation agricole, donc là, c'est une occupation permanente des terres, donc là, c'est un problème pour les personnes qui vivaient sur ces terres-là de chasse et de pêche. Donc là, à ce moment-là, la première réaction a été de diversifier l'économie, donc les Autochtones ont adopté d'autres façons de vivre. Et dans certains cas, ils ont adopté l'agriculture eux aussi. Pour ceux qui ne l'étaient pas, il y avait des agriculteurs agricoles depuis des temps antérieurs au contact avec les Européens, mais à cette période-là, certains ont adopté l'agriculture comme mode de vie. Et à partir des surtout 20e siècle, là, il y a un mouvement où on a en quelque sorte encouragé, forcé les Autochtones, pas par la force physique, mais par toutes sortes de moyens de pression, à prendre le chemin des réserves, surtout dans les années 1950. Pour les Autochtones qui étaient nomades à ce moment-là et on leur a imposé l'école obligatoire dans les années 1950 dans les cas où ce n'était pas appliqué avant. C'est vrai aussi dans l'Arctique, ce ne sont pas des réserves en tant que telles, mais ce sont des communautés sédentaires, donc comme on appelle ça des villages nordiques, où aussi l'école obligatoire a forcé en quelque sorte la sédentarisation de groupes qui étaient nomades avant.
Parfait, merci. Et au niveau de l'économie, quels sont les obstacles qui freinent encore le développement économique dans les réserves?
C'est exactement ça. En fait, c'est la mise en réserve. C'est que des gens qui étaient nomades avant, qui gagnaient leur vie d'une multitude de moyens, donc un peu de chasse, un peu de pêche, un peu de vente de fourrure, un peu de travail saisonnier, ce qu'on vivait sur un mode de vie de mobilité. Là, je parle ici vraiment de tous ceux qui étaient encore nomades jusqu'aux années 1950, donc tous ceux qui vivaient au nord du fleuve Saint-Laurent, puis jusqu'au l'Arctique, jusqu'au Nunavik aujourd'hui. Tous ces gens-là gagnaient leur vie d'une multitude de moyens. Mais lorsqu'on force tous ces gens à vivre dans un lieu fixe, parce qu'on veut envoyer les enfants à l'école de septembre à juin, avec la promesse que vos enfants vont scolariser, ils vont avoir des emplois, ben, il n'y a pas d'emploi dans ces communautés. À ce moment-là, il n'y en avait pas, en tout cas. Donc, cette promesse-là, elle n'a pas été, elle s'est pas avérée. Et ça a obligé, en fait, les parents à vivre des eux-mêmes. Enfin, ça a créé une génération de chômeurs. Donc, ce projet-là était parti avec les intentions que la scolarité va ouvrir les portes, mais en fait, dans ces communautés nordiques-là, ou du Moyen-Nord, en tout cas, c'est le contraire que ça a causé un désœuvrement.
Oui, parfait. Comment la colonisation a affecté le mode de subsistance traditionnel autochtone? Je pense qu'on en avait un petit peu parlé, mais...
Oui, c'est ça. Ben, le mode de subsistance traditionnel, en fait, ça dépend quel point de départ on prend pour définir la tradition. Donc, la tradition se modifie, comme dans n'importe quelle société. C'est-à-dire que les autochtones, comme tous les peuples de la Terre, font usage de pragmatisme. Donc, ils utilisent les opportunités qui se présentent à eux. Donc, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a des autochtones qui ont été impliqués dans toutes sortes d'industries, de commerces et toutes sortes de métiers, parce qu'il y avait un réseau professionnel qui permettait ça. Plus au nord, ben, maintenir un mode de vie axé sur la chasse et la récolte des fourrures devenait une option avantageuse, tout à fait raisonnable pendant un long temps, jusqu'au 20e siècle, jusqu'à ce moment de cette sédentarisation un peu forcée. La colonisation, dépendamment de où on est, elle a pu, dans certains cas même, amener des opportunités économiques, même si elle a amené une perte territoriale. Mais c'est vraiment la sédentarisation forcée, la scolarité obligatoire qui contraint les parents à rester en un lieu fixe où il n'y a pas d'emploi, c'est là qui amène une marginalisation économique.
Okay, parfait. Et niveau psychologique, quels impacts psychologiques les pensionnats ont laissé dans les générations autochtones futures?
C'est difficile à mesurer, mais c'est mesuré par des psychologues qui ont pu mesurer que des personnes qui ont vécu elles-mêmes des sévices, d'ordre physique ou sexuel, leurs descendants sont plus susceptibles de connaître des problèmes sociaux. Donc, en fait, je connais au moins une étude statistique qui compile un grand nombre de statistiques et qui arrive à faire cette démonstration-là. Ceci étant dit, les Autochtones aussi font preuve d'une très grande résilience aussi. Donc, les pensionnats, oui, absolument, ils ont joué beaucoup, mais j'insiste que c'est aussi la marginalisation économique qui a joué beaucoup dans toutes sortes de problèmes d'ordre économique qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, oui, les pensionnats jouent sur toutes sortes de problèmes sociaux, mais il y a des endroits où on ne peut pas imputer les problèmes sociaux aux pensionnats. C'est vraiment plutôt à cette marginalisation économique forcée qui amène, elle, beaucoup, beaucoup de problèmes de désœuvrement et toutes sortes d'autres problèmes, notamment dans les communautés nordiques, où on ne peut pas imputer ces problèmes-là aux pensionnats.
Oui, parfait. Et niveau plus sociologie, quels sont les principaux stéréotypes qui sont encore véhiculés à leur sujet, puis comment on peut y répondre?
Moi, j'en vois vraiment deux extrêmes qui sont, à mon avis, tout aussi néfastes l'un que l'autre. Donc, il y a la représentation négative des Autochtones avec toutes sortes de préjugés d'ordre racial, donc avec toutes sortes d'attributs, connotations négatives qu'on leur impute, par exemple d'alcoolisme, etc. Et de l'autre côté, c'est exactement le contraire qui est aussi dommageable. Donc, c'est une vision idéalisée, romantique, mais qui est aussi déconnectée de la réalité. Donc, que les Autochtones seraient plus grande connexion avec quelque chose ou qui aurait de nature plus d'attributs positifs ou quelque chose comme ça. Dans les deux cas, en fait, c'était des stéréotypes qui n'ont rien à voir, en fait, avec la réalité. En fait, les Autochtones sont tous les humains avec toute la gamme des attributs qu'on peut trouver chez les humains. Un, la représentation négative, ses conséquences sont évidentes. En tout cas, pour moi, elles sont évidentes, mais la représentation qui se veut romantique, elle a aussi des conséquences. C'est peut-être moins visible a priori, mais ça a des conséquences d'une vision un peu infantilisante, en fait, des Autochtones. Donc, c'est un peu plus pernicieux, peut-être, mais c'est aussi une des conséquences négatives. On voit les Autochtones comme des grands enfants gentils, mais en fait, on les voit encore même comme des enfants. Donc, l'un comme l'autre, à mon avis, circule beaucoup, et j'essaye de faire mon possible pour les déconstruire les deux.
Parfait. Puis quel est le rôle de la femme dans la culture autochtone?
En fait, c'est extrêmement variable.
Ouais.
Et là, ça dépend de quelle époque vous parlez, parce que aussi, comme ouais. partout, les normes sociales changent oui. dans le oui. temps, comme partout, en fait. Avez-vous un moment qui vous intéresse en particulier?
Je dirais plus traditionnellement, comme vraiment, mettons, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord.
À la période du contact avec les Européens,
ouais.
à ce moment-là, il y a plusieurs types de comportements qui peuvent être observés. Donc, en fait, les sociétés autochtones sont plurielles. Mais chez certains groupes autochtones, les Européens étaient très frappés par, dans les sociétés iroquoiennes, par exemple, que c'était des sociétés matrilinéaires. Donc, on définissait la lignée en fonction de la femme. Ce n'est pas unique à ces groupes-là. Ça existe ailleurs dans le monde. Mais c'est plus rare, peut-être, que la société qui définit son lignage en fonction du père. On appelle ça patrilinéarité en anthropologie. Donc, chez certains groupes autochtones, il y avait cette composante de matrilinéarité qui a frappé beaucoup les Européens. Maintenant, pour ce qui est de la place, ben, en fait, dépendamment du groupe autochtone, souvent, c'est la complémentarité des rôles. Les femmes avaient certains rôles, les hommes en avaient d'autres, et il y avait une place pour les deux. Maintenant, au niveau de la hiérarchie des genres, là, c'est beaucoup plus difficile d'en parler de façon posée pour cette période lointaine-là. Encore là, il y a beaucoup de romantisme qui s'installe dans la perception des Autochtones, donc c'est très difficile d'avoir un regard vraiment scientifique là-dessus, parce que les observateurs que nous avons, par exemple les Français, ont un regard qui n'est pas neutre en
oui.
soi,
oui.
voilà, et le regard qu'on peut porter aujourd'hui peut aussi ne pas être neutre. Donc
ouais.
ça fait beaucoup de couches d'interprétation qui viennent un peu colorer notre façon de voir ça. Oui, les femmes avaient certainement une certaine place dans certains groupes, elles pouvaient s'exprimer en public par exemple, mais pas dans toutes les sociétés autochtones. Donc il faut vraiment relativiser ça, c'est assez variable je crois.
Parfait, parfait, oui. Merci. Et niveau politique, pour finir, quelles sont les revendications politiques les plus importantes des nations autochtones aujourd'hui?
Il y en a beaucoup, en fait. La situation actuelle fait que les Autochtones ont des droits au territoire reconnus par le droit britannique et canadien et qui, pour l'instant, n'ont pas encore été traduits en quelque chose de concret. Donc, ces droits existent. Et là, maintenant, le défi qui nous attend tous, maintenant et pour le futur, c'est de dire ces droits qui sont un peu théoriques, qui sont reconnus par la couronne britannique et par la Constitution canadienne, maintenant il faut les traduire dans quelque chose de concret pour leur donner une portée pour l'avenir. Et ça, c'est un très long processus et c'est pas déconnecté de ce que je disais tantôt par rapport à la volonté d'autodétermination. Donc c'est pas juste le territoire, c'est aussi qui va avoir son mot à dire, qui va déterminer quelles mines peuvent être occupées, qui va déterminer quelles seront les coupes forestières, qui va déterminer qui peut chasser, etc. Donc, c'est pas seulement le territoire tout seul, c'est aussi qui va décider. Et ça, c'est une grosse négociation.
Ouais. Voilà. Quelle place devrait occuper la gouvernance autochtone dans le système politique? Vous en avez comme un petit peu parlé justement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté chez les Autochtones d'une plus grande autonomie. Par contre, tout le monde un peu coincé, dans le sens que la Constitution canadienne, avec son partage de compétences entre les paliers fédéral et gouvernemental, ne prévoit pas autre chose. Donc, il faut travailler avec les structures constitutionnelles qui existent déjà. Enfin, les gouvernants ne peuvent pas travailler à l'extérieur de la Constitution. Donc, ils sont obligés de travailler à l'intérieur de cette structure-là. Et les Autochtones qui souhaitent s'engager dans une négociation doivent travailler à l'intérieur de cette structure-là. Donc, si on souhaite l'indépendance pure et entière, par exemple, ça ne sert à rien de négocier ou d'aller avec la Cour suprême du Canada, parce que la Cour suprême ne pourra pas émettre un jugement à l'extérieur de sa structure. Donc, je dirais que la très grande majorité des Autochtones espèrent négocier quelque chose à l'intérieur de la structure, mais qui permet une dévolution plus grande des pouvoirs vers les communautés autochtones. Mais il va falloir faire preuve de gymnastique un peu pour que ça marche avec la structure actuelle, parce qu'une autonomie pure et indépendante n'est pas possible à l'intérieur de la structure.
Ok, merci beaucoup pour l'entrevue, merci pour votre temps, donc c'est ce qui va conclure l'entrevue. Merci à ceux aussi qui écoutent et...
Merci à vous.